Nana, chapitre 8. C'était rue Véron, à Montmartre, dans un petit logement au quatrième étage. Nana et Fontan avaient invité quelques amis pour tirer le gâteau des rois. Ils pendaient la crémaillère, installée seulement depuis 3 jours. Ça s'était fait brusquement, sans idée arrêtée de se mettre ensemble dans le premier feu de leur lune de miel. Le lendemain de sa belle algarade, quand elle eut flanqué si carrément à la porte le comte et le banquier, Nana sentit tout crouler autour d'elle. D'un regard, elle jugea la situation. Les créanciers allaient tomber dans son antichambre, se mêler de ses affaires de cœur, parler de tout vendre, si elle n'était pas raisonnable. Ce seraient des querelles, des cassements de tête à n'en plus finir pour leur disputer ses 4 meubles. Et elle préféra tout lâcher. D'ailleurs, l'appartement du boulevard Haussmann l'assommait. Il était bête avec ses grandes pièces dorées. Dans son coup de tendresse pour Fontan, elle rêvait d'une jolie petite chambre claire, retournant à son ancien idéal de fleuriste, lorsqu'elle ne voyait pas au-delà d'une armoire à glace en palissandre et d'un lit tendu de reps bleus. En 2 jours, elle vendit ce qu'elle put sortir, des bibelots, des bijoux, et elle disparut avec 10 000 francs, sans dire un mot à la concierge. Un plongeon, une fugue, pas une trace. Comme ça, les hommes ne viendraient pas se pendre après ses jupes. Fontan fut très gentil. Il ne dit pas non, il la laissa faire. Même, il agit tout à fait en bon camarade. De son côté, il avait près de 7 000 francs qu'il consentit à joindre aux 10 000 de la jeune femme, bien qu'on l'accusât d'avarice. Ça leur parut un fonds de ménage solide. Et ils partirent de là, tirant l'un et l'autre de leurs magots mis en commun, louant et meublant les 2 pièces de la rue Véron, partageant tout en vieux amis. Au début, ce fut vraiment délicieux. Le soir des rois, Madame Lerat arriva la première avec Louiset. Comme Fontan n'était pas rentré, elle se permit d'exprimer des craintes, car elle tremblait de voir sa nièce renoncer à la fortune. « Oh, ma tante, je l'aime si fort !» cria Nana, en serrant d'un geste joli ses 2 mains sur sa poitrine. Ce mot produisit un effet extraordinaire sur Madame Lerat. Ses yeux se mouillèrent. « Ça, c'est vrai, » dit-elle d'un air de conviction. « L'amour avant tout !» Et elle se récria sur la gentillesse des pièces. Nana lui fit visiter la chambre, la salle à manger, jusqu'à la cuisine. Dame, ce n'était pas immense, mais on avait refait les peintures, changé les papiers. Et le soleil entrait là gaiement. Alors, Madame Lerat retint la jeune femme dans la chambre, tandis que Louiset s'installait à la cuisine, derrière la femme de ménage, pour voir rôtir un poulet. Si elle se permettait des réflexions, c'était que Zoé sortait de chez elle. Zoé, bravement, restait sur la brèche, par dévouement pour madame. Plus tard, madame la paierait, elle n'était pas inquiète. Et dans la débâcle de l'appartement du boulevard Haussmann, elle tenait tête aux créanciers. Elle opérait une retraite digne, sauvant les épaves, répondant que madame voyageait, sans jamais donner une adresse. Même, de peur d'être suivie, elle se privait du plaisir de rendre visite à madame. Cependant, le matin, elle avait couru chez Madame Lerat parce qu'il se passait du nouveau. La veille, des créanciers s'étaient présentés, le tapissier, le charbonnier, la lingère, offrant du temps, proposant même d'avancer une très forte somme à madame si madame voulait revenir dans son appartement et se conduire en personne intelligente. La tante répéta les paroles de Zoé, et il y avait sans doute un monsieur là-dessous. « Jamais !» déclara Nana révoltée. « Eh bien, ils sont propres, les fournisseurs, Est-ce qu'ils croient que je suis à vendre pour acquitter leur mémoire? Vois-tu, j'aimerais mieux mourir de faim que de tromper Fontan. »
C'est ce que j'ai répondu, dit madame Lerat. Ma nièce a trop de cœur.
Nana, cependant, fut très vexée d'apprendre qu'on vendait la mignotte et que la bordette l'achetait à un prix ridicule pour Caroline et Kay. Ça la mit en colère contre cette clique, de vraies roulures malgré leur pose. Ah oui, par exemple, elles valaient mieux qu'elles toutes.
Elles peuvent blaguer, conclut-elle. L'argent ne leur donnera jamais le vrai bonheur. Et puis, vois-tu, ma tante, je ne sais même plus si tout ce monde-là existe. Je suis trop heureuse.
Justement, madame Malois rentrait avec un de ses chapeaux étranges dont elle seule trouvait la forme. Ce fut une joie de se revoir. Madame Malois expliqua que les grandeurs l'intimidaient. Maintenant, de temps à autre, elle reviendrait faire son bésigue. On visita une seconde fois le logement. Et dans la cuisine, devant la femme de ménage qui arrosait le poulet, Nana parla d'économie, dit qu'une bonne aurait coûté trop cher et qu'elle-même voulait s'occuper de son chez-elle. Louisée regardait béatement la rôtissoire. Mais il y eut un éclat de voix. C'était Fontan, avec Bosque et Prulière. On pouvait se mettre à table. Le potage était déjà servi lorsque Nana, pour la troisième fois, montra le logement.
« Ah, mes enfants, que vous êtes bien ici !» répétait Bosque, histoire simplement de faire plaisir aux camarades qui payaient à dîner. Car, au fond, la question de « la niche », comme il disait, ne le touchait pas. Dans la chambre à coucher, il força encore la note aimable. D'ordinaire, il traitait les femmes de chameaux, et l'idée qu'un homme pouvait s'embarrasser d'une de ces sales bêtes soulevait chez lui la seule imagination dont il était capable, dans le dédain d'ivrogne dont il enveloppait le monde.
« Ah, les gaillards !» reprit-il en clignant les yeux. « Ils ont fait ça en sournois. Eh bien, vrai, vous avez eu raison. Ce sera charmant, et nous viendrons vous voir, nom de Dieu !» Mais comme Louisée arrivait, à califourchon sur un manche à balai, Prulière dit avec un rire méchant, « Tiens, c'est déjà à vous, ce bébé ?» Cela parut très drôle. Madame Lerat et madame Malois se tordirent. Nana, loin de se fâcher, eut un rire attendri en disant que non, malheureusement. Elle aurait bien voulu, pour le petit et pour elle, mais il en viendrait peut-être un tout de même. Fontan, qui faisait le bonhomme, prit Louisée dans ses bras, jouant, zézayant.
Ça n'empêche pas, on aime son petit père. « Appelle-moi papa, crapule !»«
Papa, papa !» bégayait l'enfant. Tout le monde le couvrit de caresses. Bosque, embêté, parlait de se mettre à table. Il n'y avait que ça de sérieux. Nana demanda la permission d'asseoir Louisée près d'elle. Le dîner fut très gai. Bosque, pourtant, souffrit du voisinage de l'enfant, contre lequel il devait défendre son assiette. Madame Lerat le gêna aussi. Elle s'attendrissait, lui communiquait tout bas des choses mystérieuses, des histoires de messieurs très bien qui la poursuivaient encore. Et à deux reprises, il dut écarter son genou, car elle l'envahissait avec des yeux noyés. Prulière se conduisit comme un malhonnête à l'égard de madame Malois, qu'il ne servit pas une fois. Il était occupé uniquement de Nana, l'air vexé de la voir avec Fontan. D'ailleurs, les tourtereaux finissaient par être ennuyeux tant ils s'embrassaient. Contre toutes les règles, ils avaient voulu se placer l'un près de l'autre.
« Que diable ! Mangez ! Vous avez bien le temps !» répétait Bosque, la bouche pleine. « Attendez que nous ne soyons plus là !»
Mais Nana ne pouvait se tenir. Elle était dans un ravissement d'amour, toute rose comme une vierge, avec des rires et des regards trempés de tendresse. Les yeux fixés sur Fontan, elle l'accablait de petits noms. « Mon chien, mon loup, mon chat !»
et lorsqu'il lui passait de l'eau ou du sel, elle se penchait, le baisait au hasard des lèvres, sur les yeux, sur le nez, sur une oreille. Puis, si on la grondait, c'était avec des tactiques savantes, des humilités et des souplesses de chatte battue qu'elle revenait, en lui prenant sournoisement la main pour la garder et la baiser encore. Il fallait qu'elle touchât quelque chose de lui. Fontan faisait le gros dos et se laissait adorer, plein de condescendance. Son grand nez remuait d'une joie toute sensuelle. Son museau de bouc, sa laideur de monstre cocasse, s'étalait dans l'adoration dévote de cette fille superbe, si blanche et si grasse. Par moments, il rendait un baiser, en homme qui a tout le plaisir, mais qui veut se montrer gentil. « À la fin, vous êtes agaçant !» cria Prulière. « Va-t'en de là, toi !» Et il renvoya Fontan. Il changea le couvert pour prendre sa place à côté de Nana. Ce furent des exclamations, des applaudissements, des mots très raides. Fontan mimait le désespoir avec ses airs drôles de Vulcain pleurant Vénus. Tout de suite, Prulière se montra galant. Mais Nana, dont il cherchait le pied sous la table, lui allongea un coup pour le faire tenir tranquille. Non, certes, elle ne coucherait pas avec lui. L'autre mois, elle avait eu un commencement de béguin à cause de sa jolie tête. Maintenant, elle le détestait. S'il la pinçait encore en feignant de ramasser sa serviette, elle lui jetterait son verre par la figure. Cependant, la soirée se passa bien. On en était venu naturellement à causer des variétés. Cette canaille de bord de nave ne crèverait donc pas. Ses sales maladies reparaissaient et le faisaient tellement souffrir qu'il n'était plus bon à prendre avec des pincettes. La veille, pendant la répétition, il avait gueulé tout le temps contre Simone. En voilà un que les artistes ne pleureraient guère. Nana dit que s'il la demandait pour un rôle, elle l'enverrait joliment promener. D'ailleurs, elle parlait de ne plus jouer. Le théâtre ne valait pas son chez-soi. Fontan, qui n'était pas de la nouvelle pièce ni de celle qu'on répétait, exagérait aussi le bonheur d'avoir sa liberté entière, de passer les soirées avec sa petite chatte, les pieds devant le feu. Et les autres s'exclamaient, les traitant de vénards, affectant d'envier leur bonheur. On avait tiré le gâteau des rois. La fève était tombée à Madame Lerat, qui la mit dans le verre de Bosque. Alors ce furent des cris. « Le roi boit ! Le roi boit !» Nana profita de cet éclat de gaieté pour aller reprendre Fontan par le cou, en le baisant, en lui disant des choses dans l'oreille. Mais Prulière, avec son rire vexé de joli garçon, criait que ce n'était pas de jeu. Louisée dormait sur deux chaises. Enfin, la société ne se sépara que vers 1 heure. On se criait au revoir à travers l'escalier. Et pendant 3 semaines, la vie des 2 amoureux fut réellement gentille. Nana croyait retourner à ses débuts, quand sa première robe de soie lui avait causé un si gros plaisir. Elle sortait peu, jouant à la solitude et à la simplicité. Un matin, de bonne heure, comme elle descendait acheter elle-même du poisson au marché de la Rochefoucauld, elle resta toute saisie de se rencontrer nez à nez avec Francis, son ancien coiffeur. Il avait sa correction habituelle, linge fin, redingote, irréprochable. Et elle se trouva honteuse d'être vue par lui dans la rue, en peignoir et bourriffée, traînant des savates. Mais il eut le tact d'exagérer encore sa politesse. Il ne se permit aucune question. Il affectait de croire que madame était en voyage. Ah, madame avait fait bien des malheureux en se décidant à voyager. C'était une perte pour tout le monde. La jeune femme, cependant, finit par l'interroger, prise d'une curiosité qui lui faisait oublier son premier embarras. Comme la foule les bousculait, elle le poussa sous une porte où elle se tint debout devant lui, son petit panier à la main. Que disait-on de sa fugue ? Mon Dieu, les dames où il allait disaient ceci, disaient cela. En somme, un bruit énorme, un vrai succès. Et Stenner ?
Monsieur Stenner était bien bas. Ça finirait par du vilain s'il ne trouvait pas quelque nouvelle opération.
Et Daguenet ?
Oh, celui-là allait parfaitement. Monsieur Daguenet arrangeait sa vie.
Nana, que ses souvenirs excitaient, ouvrait la bouche pour le questionner encore. Mais elle éprouva une gêne à prononcer le nom de Muffat. Alors, Francis, souriant, parla le premier. Quant à monsieur le comte, c'était une pitié, tant il avait souffert après le départ de madame. Il semblait une âme en peine, on le voyait partout où madame aurait pu être. Enfin, monsieur Mignon, l'ayant rencontré, l'avait emmené chez lui. Cette nouvelle fit beaucoup rire Nana, mais d'un rire contraint.
« Ah, il est avec Rose maintenant, » dit-elle.
« Eh bien, vous savez, Francis, je m'en fiche. Voyez-vous ce cafard. Ça vous a pris des habitudes, ça ne peut pas jeûner seulement 8 jours. Et lui, qui me jurait de ne plus avoir de femme après moi. »
Au fond, elle enrageait.
« C'est mon reste, » reprit-elle.
« Un joli coco que Rose s'est payé là.
Oh, je comprends, elle a voulu se venger de ce que je lui ai pris, cette brute de Steiner. Comme c'est malin d'attirer chez soi un homme que j'ai flanqué dehors. »
« Monsieur Mignon ne raconte pas les choses de la sorte, » dit le coiffeur.
« D'après lui, c'est monsieur le comte qui vous aurait chassé.
Oui. Et d'une façon dégoûtante encore, avec son pied au derrière. »
Du coup, Nana devint toute pâle.
« Hein ? Quoi ? » cria-t-elle. « Son pied au derrière ? Elle est trop forte, celle-là.
Mais, mon petit, c'est moi qui l'ai jeté en bas de l'escalier, ce cocu.
Car il est cocu, tu dois savoir ça. Sa comtesse le fait cocu avec tout le monde, même avec cette fripouille de faucherie.
Et ce Mignon qui bat les trottoirs pour sa guenon de femme dont personne ne veut tant elle est maigre. Quel sale monde ! Quel sale monde ! »
Elle étranglait. Elle reprit haleine.
« Ah ! Ils disent ça. Eh bien, mon petit Francis, je vais aller les trouver, moi. Veux-tu que nous y allions tout de suite ensemble ?
Oui, j'irai, et nous verrons s'ils auront le toupet de parler encore de coups de pied au derrière. »
Coup, mais je n'en ai jamais toléré de personne, et jamais on ne me battra, vois-tu, parce que je mangerai l'homme qui me toucherait. »
Pourtant, elle s'apaisa. Après tout, il pouvait bien dire ce qu'il voulait. Elle ne les considérait pas plus que la boue de ses souliers. Ça l'aurait sali de s'occuper de ces gens-là. Elle avait sa conscience pour elle. Et Francis, devenu familier, la voyant se livrer ainsi dans son peignoir de ménagère, se permit, en la quittant, de lui donner des conseils. Elle avait tort de tout sacrifier à une toccade. Les toccades gâtaient l'existence. Elle l'écoutait, la tête basse, pendant qu'il parlait d'un air peiné, en connaisseur qui souffrait de voir une si belle fille se gâcher de la sorte.
« Ça, c'est mon affaire, » finit-elle par dire.
« Merci tout de même, mon cher. »
Elle lui serra la main, qu'il avait toujours un peu grasse, malgré sa tenue parfaite. Puis, elle descendit acheter son poisson. Dans la journée, cette histoire de coups de pied au derrière l'occupa. Elle en parla même à Fontan. Elle se posa de nouveau comme une femme forte qui ne supporterait pas une chiquenaude. Fontan, en esprit supérieur, déclara que tous les hommes comme il faut étaient des mufs et qu'on devait les mépriser. Nana, dès lors, fut pleine d'un réel dédain. Justement, ce soir-là, ils allèrent au bouffe, voir débuter, dans un rôle de 10 lignes, une petite femme que Fontan connaissait. Il était près d'une heure quand ils regagnèrent à pied les hauteurs de Montmartre. Rue de la Chaussée-d'Antin, ils avaient acheté un gâteau, un moka, et ils le mangèrent dans le lit, parce qu'il ne faisait pas chaud, et que ça ne valait pas la peine d'allumer du feu. Assis sur leur séant, côte à côte, la couverture au ventre, les oreillers tassés derrière le dos, ils soupaient en causant de la petite femme. Nana la trouvait laide et sans chic. Fontan, couché sur le devant, passait les parts de gâteau posées au bord de la table de nuit entre la bougie et les allumettes. Mais ils finirent par se quereller.
« Oh, si on peut dire !» criait Nana. « Elle a des yeux comme des trous de vrille et des cheveux couleur filasse. »«
Tais-toi donc !» répétait Fontan. « Une chevelure superbe, des regards pleins de feu. Est-ce drôle que vous vous mangiez toujours entre femmes ?»
Il avait l'air vexé.
« Allons, en voilà de trop !» dit-il enfin d'une voix brutale. « Tu sais, je n'aime pas qu'on m'embête. Dormons, ou ça va mal tourner. »
Et il souffla la bougie. Nana, furieuse, continuait. Elle ne voulait pas qu'on lui parlât sur ce ton. Elle avait l'habitude d'être respectée. Comme il ne répondait plus, elle dut se taire. Mais elle ne pouvait s'endormir. Elle se tournait, se retournait.
« Nom de Dieu, as-tu fini de remuer ? » cria-t-il tout d'un coup avec un brusque saut.
« Ce n'est pas ma faute s'il y a des miettes !» dit-elle sèchement. En effet, il y avait des miettes. Elle en sentait jusque sous ses cuisses. Elle était dévorée partout. Une seule miette la brûlait, la faisait se gratter au sang. D'ailleurs, lorsqu'on mange un gâteau, est-ce qu'on ne secoue pas toujours la couverture ? Fontan, dans une rage froide, avait rallumé la bougie. Tous deux se levèrent et, pieds nus, en chemise, découvrant le lit, ils balayèrent les miettes sur le drap avec les mains. Lui, qui grelottait, se recoucha en l'envoyant au diable, parce qu'elle lui recommandait de bien s'essuyer les pieds. Enfin, elle reprit sa place, mais, à peine allongée, elle dansa. Il y en avait encore.
« Parbleu, c'était sûr !» répétait-elle. « Tu les as remontés avec tes pieds. Je ne peux pas, moi. Je te dis que je ne peux pas !»
Et elle faisait mine de l'enjamber pour sauter par terre. Alors, poussé à bout, voulant dormir, Fontan lui allongea une gifle à toute volée. La gifle fut si forte que, du coup, Nana se retrouva couchée, la tête sur l'oreiller. Elle resta étourdie.
« Oh !»
dit-elle simplement avec un gros soupir d'enfant. Un instant, il la menaça d'une autre claque, en lui demandant si elle bougerait encore. Puis, ayant soufflé la lumière, il s'installa carrément sur le dos. Il ronfla tout de suite. Elle, le nez dans l'oreiller, pleurait à petits sanglots. C'était lâche d'abuser de sa force. Mais elle avait eu une vraie peur, tant le masque drôle de Fontan était devenu terrible. Et sa colère s'en allait, comme si la gifle l'avait calmée. Elle le respectait. Elle se collait contre le mur de la ruelle pour lui laisser toute la place. Même, elle finit par s'endormir, la joue chaude, les yeux pleins de larmes, dans un accablement délicieux, dans une soumission si lasse qu'elle ne sentait plus les miettes. Le matin, quand elle se réveilla, elle tenait Fontan entre ses bras nus, serré contre sa gorge, bien fort. N'est-ce pas ? Il ne recommencerait jamais, jamais plus. Elle l'aimait trop. De lui, c'était encore bon d'être giflé. Alors, ce fut une vie nouvelle. Pour un oui, pour un non, Fontan lui lâchait des claques. Elle, accoutumée, empochait ça. Parfois, elle criait, le menaçait, mais il l'acculait contre le mur en parlant de l'étrangler, ce qui la rendait souple. Le plus souvent, tombée sur une chaise, elle sanglotait 5 minutes. Puis elle oubliait, très gaie, avec des chants et des rires, des courses qui emplissaient le logement du vol de ses jupes. Le pis était que, maintenant, Fontan disparaissait toute la journée et ne rentrait jamais avant minuit. Il allait dans des cafés où il retrouvait des camarades. Nana tolérait tout, tremblante, caressante, avec la seule peur de ne plus le voir revenir si elle lui adressait un reproche.
Mais certains jours, quand elle n'avait ni Madame Maloire, ni sa tante avec Louisée, elle s'ennuyait mortellement. Aussi, un dimanche, comme elle était au marché La Rochefoucauld en train de marchander des pigeons, fut-elle enchantée de rencontrer Satin, qui achetait une botte de radis. Depuis la soirée où le prince avait bu le champagne de Fontan, elles s'étaient perdues de vue toutes deux. « Comment, c'est toi? Tu es du quartier ?» dit Satin, stupéfaite de la voir en pantoufles dans la rue à 7 heures. « Ah, ma pauvre fille, il y a donc de la panne !» Nana la fit taire d'un froncement de sourcils parce que d'autres femmes étaient là en robe de chambre, sans linge, les cheveux tombés et blancs de peluche. Le matin, toutes les filles du quartier, à peine l'homme de la veille mis à la porte, venaient faire leurs provisions, les yeux gros de sommeil, traînant des savates dans la mauvaise humeur et la fatigue d'une nuit d'embêtement. De chaque rue du carrefour, il en descendait vers le marché, de très pâles, jeunes encore, charmantes d'abandon, d'affreuses, vieilles et ballonnées, lâchant leur peau, se fichant d'être vues ainsi, en dehors des heures de travail. Pendant que, sur les trottoirs, les passants se retournaient, sans qu'une seule daignât sourire, toutes affairées, avec des airs dédaigneux de ménagères, pour qui les hommes n'existaient plus. Justement, comme Satin payait sa botte de radis, un jeune homme, quelque employé attardé, lui jeta un « Bonjour, chérie !» au passage. Du coup, elle se redressa, elle eut une dignité de reine offensée en disant « Qu'est-ce qu'il lui prend à ce cochon-là » Puis, elle crut le reconnaître. 3 jours auparavant, vers minuit, remontant seule du boulevard, elle lui avait parlé près d'une demi-heure au coin de la rue La Bruyère pour le décider. Mais cela ne fit que la révolter davantage. « Sont-ils assez mufs de vous crier des choses en plein jour ? » reprit-elle. « Quand on va à ses affaires, n'est-ce pas ? C'est pour qu'on vous respecte !» Nana avait fini par acheter ses pigeons, bien qu'elle doutât de leur fraîcheur. Alors, Satin voulut lui montrer sa porte. Elle demeurait à côté, rue de La Rochefoucauld. Et dès qu'elles furent seules, Nana conta sa passion pour Fontan. Arrivée devant chez elle, la petite s'était plantée, ses radis sous le bras, allumée par un dernier détail que l'autre donnait, mentant à son tour, jurant que c'était elle qui avait flanqué le comte Muffa dehors, à grands coups de pied dans le derrière. « Oh, très chic !» répétait Satin. « Très chic, des coups de pied !» Et il n'a rien dit, n'est-ce pas ? C'est si lâche. J'aurais voulu être là pour voir sa gueule. « Ma chère, tu as raison. Et zut pour la monnaie. Moi, quand j'ai un béguin, je m'en fais crever. Hein ? Viens me voir, tu me le promets. La porte à gauche. Frappe 3 coups, parce qu'il y a un tas d'emmerdeurs. » Dès lors, quand Nana s'ennuya trop, elle descendit voir Satin. Elle était toujours certaine de la trouver, celle-ci ne sortant jamais avant 6 heures. Satin occupée de chambre qu'un pharmacien lui avait meublée pour la sauver de la police. Mais, en moins de 13 mois, elle avait cassé les meubles, défoncé les sièges, sali les rideaux, dans une telle rage d'ordure et de désordre que le logement semblait habité par une bande de chattes en folie. Les matins, où, dégoûtée elle-même, elle s'avisait de vouloir nettoyer, il lui restait aux mains des barreaux de chaises et des lambeaux de tenture, à force de se battre là-dedans avec la crasse. Ces jours-là, c'était plus sale. On ne pouvait plus entrer, parce qu'il y avait des choses tombées en travers des portes. Aussi finissait-elle par abandonner son ménage. À la lampe, l'armoire à glace, la pendule et ce qui restait des rideaux faisaient encore illusion aux hommes. D'ailleurs, depuis 6 mois, son propriétaire menaçait de l'expulser. Alors, pour qui aurait-elle entretenu ses meubles? Pour lui, peut-être, plus souvent. Et quand elle se levait de belle humeur, elle criait « Eu donc !» en allongeant de grands coups de pied dans les flancs de l'armoire et de la commode, qui craquaient. Nana, presque toujours, la trouvait couchée. Même les jours où Satin descendait pour ses commissions, elle était si lasse en remontant qu'elle se rendormait, jetée au bord du lit. Dans la journée, elle se traînait, elle sommeillait sur les chaises, ne sortant de cette langueur que vers le soir, à l'heure du gaz. Et Nana se sentait très bien chez elle, assise à ne rien faire, au milieu du lit des fées, des cuvettes qui traînaient par terre, des jupons crottés de la veille, tachant debout les fauteuils. C'étaient des bavardages, des confidences sans fin, pendant que Satin, en chemise, vautré et les pieds plus hauts que la tête, l'écoutait en fumant des cigarettes. Parfois, elle se payait de l'absinthe, les après-midi où elles avaient des chagrins, pour oublier, disait-elle. Sans descendre, sans même passer un jupon, Satin allait se pencher au-dessus de la rampe et crier la commande à la petite de la concierge, une gamine de 10 ans, qui, en apportant l'absinthe dans un verre, coulait des regards sur les gens venus de la dame. Toutes les conversations aboutissaient à la saleté des hommes. Nana était assommante avec son fontan. Elle ne pouvait placer 10 paroles sans retomber dans des rabâchages sur ce qu'il disait, sur ce qu'il faisait. Mais Satin, bonne fille, écoutait sans ennui ces éternelles histoires d'attente à la fenêtre, de querelles pour un ragoût brûlé, de raccommodement au lit, après des heures de bouderie muette. Par un besoin de parler de ça, Nana en était arrivée à lui conter toutes les claques qu'elle recevait. La semaine passée, il lui avait fait enfler l'œil. La veille encore, à propos de ses pantoufles qu'il ne trouvait pas, il l'avait jetée d'une calotte dans la table de nuit. Et l'autre ne s'étonnait point, soufflant la fumée de sa cigarette, s'interrompant seulement pour dire que, elle, toujours se baissait, ce qui envoyait promener le monsieur avec sa gifle. Toutes deux se tassaient dans ces histoires de coups, heureuses, étourdies des mêmes faits imbéciles, 100 fois répétés, cédant à la moue et chaude lassitude des roulées indignes dont elle parlait. C'était cette joie de remâcher les claques de Fontan, d'expliquer Fontan jusque dans sa façon d'ôter ses bottes, qui ramenait chaque jour Nana, d'autant plus que Satin finissait par sympathiser. Elle citait des faits plus forts. Un pâtissier qui la laissait par terre, morte, et qu'elle aimait quand même. Puis venaient les jours où Nana pleurait, en déclarant que ça ne pouvait pas continuer. Satin l'accompagnait jusqu'à sa porte, restait 1 heure dans la rue pour voir s'il ne l'assassinait pas. Et le lendemain, les deux femmes jouissaient toute l'après-midi de la réconciliation, préférant pourtant, sans le dire, les jours où il y avait des raclées dans l'air, parce que ça les passionnait davantage. Elles devinrent inséparables. Pourtant, Satin n'allait jamais chez Nana, Fontan ayant déclaré qu'il ne voulait pas de traînée dans la maison. Elles sortaient ensemble, et c'est ainsi que Satin mena un jour son amie chez une femme, justement cette Madame Robert, qui préoccupait Nana, et lui causait un certain respect depuis qu'elle avait refusé de venir à son souper. Madame Robert demeurait rue Monnier, une rue neuve et silencieuse du quartier de l'Europe, sans une boutique, dont les belles maisons aux petits appartements étroits sont peuplées de dames. Il était 5 heures, le long des trottoirs déserts, dans la paix aristocratique des hautes maisons blanches, des coupés de boursiers et de négociants stationnaient, tandis que des hommes filaient vite, levant les yeux vers les fenêtres, où des femmes en peignoir semblaient attendre. Nana, d'abord, refusa de monter, disant d'un air pincé qu'elle ne connaissait pas cette dame. Mais Satin insistait. On pouvait toujours bien mener une amie avec soi. Elle voulait simplement faire une visite de politesse. Madame Robert, qu'elle avait rencontrée la veille dans un restaurant, s'était montrée très gentille en lui faisant jurer de la venir voir. Et Nana finit par céder. En haut, une petite bonne endormie leur dit que madame n'était pas rentrée. Pourtant, elle voulut bien les introduire dans le salon où elle les laissa. « Bigre, c'est chic !» murmura Satin. C'était un appartement sévère et bourgeois, tendu d'étoffes sombres, avec le « comme il faut » d'un boutiquier parisien, retiré après fortune faite. Nana, impressionnée, voulut plaisanter. Mais Satin se fâchait, répondait de la vertu de madame Robert. On la rencontrait toujours en compagnie d'hommes âgés et sérieux qui lui donnaient le bras. Pour le moment, elle avait un ancien chocolatier, esprit grave. Quand il venait, charmé de la bonne tenue de la maison, il se faisait annoncer et l'appelait « mon enfant ». « Mais tiens, la voilà !» reprit Satin en montrant une photographie posée devant la pendule. Nana étudia le portrait un instant. Il représentait une femme très brune, au visage allongé, les lèvres pincées dans un sourire discret. On aurait dit tout à fait une dame du monde, avec plus de retenue. « C'est drôle !» murmura-t-elle enfin. « J'ai certainement vu cette tête-là quelque part. Où ? Je ne sais plus. Mais ça ne devait pas être dans un endroit propre. Ou non, bien sûr, ce n'était pas un endroit propre. » Et elle ajouta, en se tournant vers son amie, « Alors, elle t'a fait promettre de venir la voir ? Que te veut-elle ? » « Ce qu'elle me veut, pardi, causer sans doute, rester un moment ensemble, c'est de la politesse. » Nana regardait Satin fixement. Puis, elle eut un léger claquement de langue. Enfin, ça lui était égal. Mais, comme cette dame les faisait poser, elle déclara qu'elle n'attendrait pas davantage. Et toutes deux partirent. Le lendemain, Fontan ayant averti Nana qu'il ne rentrerait pas dîner, elle descendit de bonne heure chercher Satin pour lui payer un régal dans un restaurant. Le choix du restaurant fut une grosse question. Satin proposait des brasseries que Nana trouvait infectes. Enfin, elle la décida à manger chez Laure. C'était une table d'hôte, rue des Martyrs, où le dîner coûtait 3 francs. Ennuyée d'attendre l'heure, ne sachant que faire sur les trottoirs, elles montèrent chez Laure 20 minutes trop tôt. Les 3 salons étaient encore vides. Elles se placèrent à une table, dans le salon même où Laure pied de fer trônait sur la haute banquette d'un comptoir. Cette Laure était une dame de 50 ans, aux formes débordantes, sanglées dans des ceintures et des corsets. Des femmes arrivaient à la file, se haussaient par-dessus les soucoupes et baisaient Laure sur la bouche avec une familiarité tendre. Pendant que ce monstre, les yeux mouillés, tâchait en se partageant de ne pas faire de jalouse. La bonne, au contraire, était une grande maigre, ravagée, qui servait ses dames, les paupières noires, les regards flambant d'un feu sombre. Rapidement, les 3 salons s'emplirent. Il y avait là une 100aine de clientes, mêlées au hasard des tables, la plupart touchant à la 40aine, énormes, avec des empattements de chair, des bouffissures de vis noyant les bouches molles. Et, au milieu de ces ballonnements de gorge et de ventre, apparaissaient quelques jolies filles minces, l'air encore ingénu sous l'effronterie du geste, des débutantes levées dans un bastringue et amenées par une cliente chez Laure, où le peuple des grosses femmes, mis en l'air à l'odeur de leur jeunesse, se bousculait, faisait autour d'elle une cour de vieux garçons inquiets en leur payant des gourmandises. Quant aux hommes, ils étaient peu nombreux, 10 à 15 au plus, l'attitude humble sous le flot envahissant des jupes, sauf 4 gaillards qui blaguaient, très à l'aise, venus pour voir ça. « N'est-ce pas ? » disait Satin. « C'est très bon, leur fricot. » Nana hochait la tête, satisfaite. C'était l'ancien dîner solide d'un hôtel de province. vol au vent à la financière, poule au riz, haricots au jus, crème à la vanille glacée de caramel. Ces dames tombaient particulièrement sur la poule au riz, éclatant dans leur corsage, s'essuyant les lèvres d'une main lente. D'abord, Nana avait eu peur de rencontrer d'anciennes amies qui lui auraient fait des questions bêtes. Mais elle se tranquillisa. Elle n'apercevait aucune figure de connaissance parmi cette foule très mélangée, où des robes déteintes, des chapeaux lamentables s'étalaient à côté de toilettes riches dans la fraternité des mêmes perversions. Un instant, elle fut intéressée par un jeune homme, aux cheveux courts et bouclés, le visage insolent, tenant sans haleine, pendu à ses moindres caprices, toute une table de filles qui crevaient de graisse. Mais comme le jeune homme riait, sa poitrine se gonfla. « Tiens, c'est une femme !» laissa-t-elle échapper dans un léger cri. Satin, qui se bourrait de poule, leva la tête en murmurant. « Ah oui, je la connais. Très chic, on se l'arrache. » Nana fit une moue dégoûtée. Elle ne comprenait pas encore. Pourtant, elle disait de sa voix raisonnable que des goûts et des couleurs, il ne fallait pas disputer, car on ne savait jamais ce qu'on pourrait aimer un jour. Aussi mangeait-elle sa crème d'un air de philosophie, en s'apercevant parfaitement que sa teint révolutionnait les tables voisines avec ses grands yeux bleus de vierge. Il y avait surtout près d'elle une forte personne blonde très aimable. Elle flambait, elle se poussait, si bien que Nana était sur le point d'intervenir. Mais, à ce moment, une femme qui entrait lui causa une surprise. Elle avait reconnu Madame Robert. Celle-ci, avec sa jolie mine de souris brune, adressa un signe de tête familier à la grande bonne maigre, puis vint s'appuyer au comptoir de l'or. Et toutes deux se baisèrent longuement. Nana trouva cette caresse-là très drôle de la part d'une femme si distinguée. D'autant plus que Madame Robert n'avait pas du tout son air modeste, au contraire. Elle jetait des coups d'œil dans le salon, causant à voix basse. Laure venait de se rasseoir, tassée de nouveau, avec la majesté d'une vieille idole du vice, à la face usée et vernie par les baisers des fidèles. Et, au-dessus des assiettes pleines, elle régnait sur sa clientèle bouffie de grosses femmes, monstrueuse auprès des plus fortes, trônant dans cette fortune de maîtresse d'hôtel qui récompensait 40 années d'exercice. Mais Madame Robert avait aperçu sa teint. Elle lâcha l'or, accourut, se montra charmante, disant combien elle regrettait de ne s'être pas trouvée chez elle la veille. Et comme sa teint séduite voulait absolument lui faire une petite place, elle jurait qu'elle avait dîné. Elle était montée simplement pour voir. Tout en parlant, debout derrière sa nouvelle amie, elle s'appuyait à ses épaules, souriante et câline, répétant « Voyons, quand vous verrai-je, si vous étiez libre !» Nana, malheureusement, ne put en entendre davantage. Cette conversation la vexait. Elle brûlait de dire ses quatre vérités à cette femme honnête. Mais la vue d'une bande qui arrivait la paralysa. C'étaient des femmes chics, en grande toilette, avec leurs diamants. Elles venaient en partie chez Laure, qu'elles tutoyaient toutes, reprises d'un goût pervers, promenant des 100 000 francs de pierreries sur leur peau, pour dîner là, à 3 francs par tête, dans l'étonnement jaloux des pauvres filles crottées. Lorsqu'elles étaient entrées, la voix haute, le rire clair, apportant du dehors comme un coup de soleil, Nana avait vivement tourné la tête, très ennuyée de reconnaître parmi elles Lucie Stewart et Maria Blond. Pendant près de 5 minutes, tout le temps que ces dames causèrent avec Laure, avant de passer dans le salon voisin, elle tint le nez baissé, ayant l'air très occupée à rouler des miettes de pain sur la nappe. Puis, Quand elle put enfin se retourner, elle demeura stupéfaite. La chaise près d'elle était vide, sa teint avait disparu.
« Eh bien, où est-elle donc ? »
laissa-t-elle échapper tout haut. La forte personne blonde, qui avait comblé sa teinte d'attention, eut un rire dans sa mauvaise humeur, et comme Nana, irritée de ce rire, la regardait d'un œil menaçant, elle dit mollement, la voix traînante, « Ce n'est pas moi, bien sûr, c'est l'autre qui vous l'a faite. » Alors Nana, comprenant qu'on se moquerait d'elle, n'ajouta rien. Elle resta même un moment assise, ne voulant pas montrer sa colère. Au fond du salon voisin, elle entendait les éclats de Lucy Stewart, qui régalait toute une table de petites filles descendues des bals de Montmartre et de la chapelle. Il faisait très chaud. La bonne enlevait des piles d'assiettes sales dans l'odeur forte de la poule au riz. Tandis que les quatre messieurs avaient fini par verser du vin fin à une demi-douzaine de ménages, rêvant de les griser pour en entendre de raides. Maintenant, ce qui exaspérait Nana, c'était de payer le dîner de satin. En voilà une garce qui se laissait goberger et qui filait avec le premier chien coiffé, sans dire merci. Sans doute, ce n'était que 3 francs, mais ça lui semblait dur tout de même. La manière était trop dégoûtante. Elle paya pourtant, elle jeta ses 6 francs alors, qu'elle méprisait à cette heure, plus que la boue des ruisseaux. Dans la rue des Martyrs, Nana sentit encore grandir sa rancune. Bien sûr, elle n'allait pas courir après Satin, une jolie ordure pour y mettre le nez. Mais sa soirée se trouvait gâtée, et elle remonta lentement vers Montmartre, enragée surtout contre Madame Robert. Celle-là, par exemple, avait un fameux toupet de faire la femme distinguée. Oui, distinguée dans le coin aux épluchures. À présent, elle était certaine de l'avoir rencontrée au Papillon, un infect bastringue de la rue des Poissonniers, où des hommes la levaient pour 30 sous. Et ça empaumait des chefs de bureau par des airs modestes, et ça refusait des soupers auxquels on lui faisait l'honneur de l'inviter, histoire de se poser en vertu. Vrai, on lui en flanquerait de la vertu. C'était toujours ces bégueules-là qui s'en donnaient à crever dans des trous ignobles que personne ne connaissait. Cependant, Nana, en roulant ses choses, était arrivée chez elle, rue Véron. Elle fut toute secouée de voir de la lumière. Fontan rentrait, maussade, lâché lui aussi par l'ami qui lui avait payé à dîner. Il écouta, d'un air froid, les explications qu'elle donnait, craignant des calottes, effarée de le trouver là, lorsqu'elle ne l'attendait pas avant 1 heure du matin. Elle mentait. Elle avouait bien avoir dépensé 6 francs, mais avec Madame Maloire. Alors il resta digne, il lui tendit une lettre à son adresse qu'il avait tranquillement décachetée. C'était une lettre de Georges, toujours enfermée au fond d'elle, se soulageant chaque semaine dans des pages brûlantes. Nana adorait qu'on lui écrivît, surtout de grandes phrases d'amour avec des serments. Elle lisait ça à tout le monde. Fontan connaissait le style de Georges et l'appréciait. Mais ce soir-là, elle redoutait tellement une scène qu'elle affecta l'indifférence. Elle parcourut la lettre d'un air maussade et la rejeta aussitôt. Fontan s'était mis à battre la retraite sur une vitre, ennuyé de se coucher de si bonne heure, ne sachant plus à quoi occuper sa soirée. Brusquement, il se tourna. « Si l'on répondait tout de suite à ce gamin, » dit-il. D'habitude, c'était lui qui écrivait. Il luttait de style. Puis, il était heureux lorsque Nana, enthousiasmée de la lecture de sa lettre, faite tout haut, l'embrassait en criant qu'il n'y avait que lui pour trouver des choses pareilles. Ça finissait par les allumer, et ils s'adoraient. « Comme tu voudras, » répondit-elle. « Je vais faire du thé. Nous nous coucherons ensuite. » Alors,
Fontan s'installa sur la table avec un grand déploiement de plumes, d'encre et de papier. Il arrondissait les bras, allongeait le menton. « Mon cœur !» commença-t-il à voix haute. Et pendant plus d'une heure, il s'appliqua, réfléchissant parfois sur une phrase, la tête entre les mains, raffinant, se riant à lui-même quand il avait trouvé une expression tendre. Nana, silencieusement, avait déjà pris 2 tasses de thé. Enfin, il lut la lettre, comme on lit au théâtre, avec une voix blanche, en indiquant quelques gestes. Il parlait là-dedans, en 5 pages, des heures délicieuses passées à la mignotte, ces heures dont le souvenir restait comme des parfums subtils. Il jurait une éternelle fidélité à ce printemps de l'amour, et finissait en déclarant que son unique désir était de recommencer ce bonheur, si le bonheur peut se recommencer.
« Tu sais, expliqua-t-il, je dis tout ça par politesse, du moment que c'est pour rire, hein, je crois qu'elle est touchée, celle-là. »
Il triomphait. Mais Nana, maladroite, se méfiant toujours, commit la faute de ne pas lui sauter au cou en s'exclamant. Elle trouva la lettre bien, pas davantage. Alors, il fut très vexé. Si sa lettre ne lui plaisait pas, elle pouvait en faire une autre. Et au lieu de se baiser, comme d'habitude, après avoir remué des phrases d'amour, ils restèrent froids aux 2 côtés de la table. Pourtant, elle lui avait versé une tasse de thé.
« En voilà une cochonnerie » cria-t-il en y trempant les lèvres. « Tu as donc mis du sel ?»
Nana eut le malheur de hausser les épaules. Il devint furieux.
« Ah, ça tourne mal ce soir !»
Et la querelle partit de là.